l'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.
Bonjour Lauriane Maudry et Ange Sierakowski, les deux fondateurs du festival Camerata Figarella sont nos invités aujourd'hui et avec eux nous allons parler de la 5e édition de cette manifestation qui aura lieu du samedi 16 au dimanche 24 septembre dans plusieurs villages du Cap Corse. Lauriane, bonjour.
Bonjour.
Ange, bonjour.
Bonjour.
Alors Ange, tout d'abord un petit mot sur votre association, comment est née cette association et pourquoi ?
Alors la Camerata Figarella est née en 2019. C'est une association qui a comme but celui de diffuser et promouvoir la musique classique, entendue comme un patrimoine commun, un patrimoine européen qui va de la musique de chambre à l'orchestre en passant par la musique sacrée et la musique baroque, et la musique traditionnelle, parce que nous pensons qu'il y a des ponts à faire, à reconstruire entre la musique traditionnelle, la musique des sociétés traditionnelles et ce répertoire entre guillemets savant. Donc voilà, nous sommes musiciens tous les deux, musiciens professionnels, et nous avons décidé, moi personnellement, Figarella et le village d'une partie de ma famille, de réinvestir ce savoir et aussi cette envie de partager dans cette association.
Alors, Lauriane, comment s'est fait la rencontre avec Ange ? Vous êtes du même village ?
Alors, on n'est pas du même village. On s'est rencontrés lors de nos études. Donc, on était à Paris ensemble. Puis après, on est allé à la Hans Hassler. C'est une école de musique classique à Berlin. Donc, on s'est rencontrés. On a beaucoup travaillé ensemble. Et puis, on a beaucoup travaillé à Figarella.
Ce qui n'est pas désagréable.
Hein. Non, ce qui n'est pas du tout désagréable. On venait souvent pour travailler, pour se préparer pour des examens, pour des concours. C'est un peu ce qui passe sur notre parcours, on va dire, de manière assez fréquente. Et on a eu envie de créer dans ce village, à l'issue de ces temps où en général on travaillait, on essayait de faire des petites choses pour nos amis ou pour la famille, et on s'est dit qu'on avait envie de créer quelque chose de plus grand, d'essayer de créer une communauté et un lieu artistique où on pouvait transmettre et créer aussi, parce qu'on avait envie, je pense, comme un peu un laboratoire, de faire émerger un peu des idées et de les retravailler.
Alors, il y a déjà de nombreux festivals de musique classique. Qu'est-ce qui vous démarque un peu des autres festivals, Ange ?
Évidemment, c'est une question depuis le début, hein, c'est-à-dire pour nous de comment s'inscrire dans le panorama culturel corse, mais aussi de pouvoir proposer quelque chose de différent et qui puisse aussi ouvrir à des potentiels ponts avec d'autres secteurs culturels. Donc je m'explique. Premièrement, il y a le choix à la temporalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals de musique classique en Corse, mais c'est vrai aussi qu'il y en a beaucoup l'été. Mmh. Et nous, on a pris le parti de l'association Camerata Figarella, même si on va me contredire parce qu'on a fait un concert au village en juillet, mais le projet, c'est un festival depuis 5 ans qui se déroule à la fin du mois de septembre. Pourquoi à la fin du mois de septembre ? Parce que ça permet au festival de faire de la pédagogie et de créer des ponts, notamment avec, pour nous, le public de demain, qui sont toutes les écoles de la Pia Vidalotta, mais aussi de tous les villages qui sont traversés par les concerts, et surtout le conservatoire, parce que ce conservatoire est l'institution musicale, le conservatoire Henri Thomas, sur l'île, et donc ça permet de faire des ateliers pédagogiques, de mettre en place des élèves qui jouent avec nous. Donc ça, c'était un des premiers points. Le deuxième point, c'est sur le type de programmation. C'est vrai qu'il y a une vision un peu que tous les festivals essaient de combattre, hein, absolument, mais il y a une vision qui est ancrée dans la société et qui n'est pas du fait de la société elle-même, mais plutôt de la responsabilité de ceux qui ont organisé un peu la musique classique depuis les derniers siècles, d'une vision un peu élitiste de la musique classique, mm-hmm. C'est-à-dire quelque chose que on va voir dans les grandes philharmonies, qu'on va voir peut-être quand on monte à Paris, on va voir un concert une fois. Et là, l'idée, c'est nous, on a cette expression, d'amener la philharmonie au centre du village. Pourquoi ? Parce que pour nous, le patrimoine de la musique classique, c'est-à-dire une suite de Bach, une symphonie de Mozart, il appartient au plus profond de notre être à un langage commun, parce que c'est le langage commun à la fois de la musique sacrée, de la musique profane, des Européens et de quels nous sommes concernés. Donc l'idée, c'était aussi de vraiment d'amener quelque chose d'accessible, de très grande qualité, parce que ça, c'est important aussi. Donc on fait attention à ce que les musiciens soient les musiciens plus haut niveau possible qu'on puisse se permettre, mmh. évidemment. Et donc voilà, d'amener cette philharmonie au centre du village et en plus hors saison pour permettre d'avoir un vrai échange avec les structures pédagogiques et culturelles sur le territoire.
Alors, ce qui vous démarque aussi, c'est qu'il y a une résidence en amont.
Oui, il y a une résidence en amont qui se passe au village. Peut-être que tu veux aussi en...
Oui. C'est, donc l'idée, c'était que... Ça aussi, c'est quelque chose qui peut-être démarque un tout petit peu, vous avez raison de le souligner, d'autres festivals, même si par exemple à Calenzana, c'est un peu le même concept qu'ils utilisent, au contraire des Calenzana. L'idée, c'est qu'on n'invite pas des groupes juste pour jouer qui repartent le lendemain. Le but, c'est qu'il y ait un échange artistique aussi qui puisse nourrir la communauté de musiciens insulaires qui vivent et travaillent en Corse, de ces échanges qui se font avec des musiciens qui viennent de toute l'Europe. Donc il y a un moment de résidence, c'est un moment un peu particulier, il y a plus de 35-40 artistes qui arrivent dans le village de Figueira, qui sont logés par les habitants du village de Figueira, qui travaillent ensemble dans les salles qu'on peut trouver entre un bout de l'église, une salle de garage qui a été réaménagée, on travaille ensemble pour présenter des concerts du coup, qui ont été travaillés au village de Figueira, d'où le nom Caméra de Figueira, et ensuite qui sont diffusés sur l'ensemble du territoire.
Το φως του δρόμου δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς κι όμως γελάστηκα γιατί στη γέφυρα του χρόνου αντάμωσα το λογισμό μου κι όλο ρωτούσε τη ψυχή αν έχει τέλος και αρχή. Κι όπως βαδίζαμε μαζί ξεχάστηκα. Με ένα κράσι και ένα χώρο θα κοροϊδέψω το γέρο γιατί κι εκείνος θα σβήστη μαζί με μένα και θα γέλα όσα παιδί στην τελευταία μου στροφή γιατί προσπέρασε η ζωή σαν να ήταν ψέμα. Σαν όνειρο που ζεις μονάχος η μνήμη πια δεν το χωρά και σβήνει όλα καιρό κι όμως το ξέρω κατά βάθος πως τα σοφίσματα είναι λάθος και δεν πεθαίνουν οι στιγμές κι όλα υπάρχουν αν το θες. Μα ό,τι ματαίο βαφτίζεις μένει ματαίο. Με ένα κράσι και ένα χώρο θα κοροϊδέψω το καιρό γιατί κι εκείνος θα σβηστεί μαζί με μένα και θα γέλα όσα παιδί στην τελευταία μου στροφή γιατί προσπέρασε η ζωή σαν να ήταν ψέμα. Στην τελευταία μου στροφή. στροφή. Γιατί προσπέρασε η ζωή σαν να ήταν ψέμα.
Le choix des artistes, Lauriane.
Oui,
allez.
Le choix des
artistes.
Il y en
a 40 quand même, donc.
Il y en a 40.
Mais malgré ça, il y a des choix à faire.
Il y a des choix à faire, et le choix, c'était de rassembler des artistes d'horizons différents. Donc vraiment d'aller tant dans leur métier hein, que dans les origines. Parce qu'on a des artistes, on a une artiste coréenne qui habite en Allemagne, on a des artistes italiens, parce que c'est la côte d'en face, on a des artistes. Insulaire, et puis on a aussi des artistes français avec d'autres origines ou franco-français. Et l'idée, c'était aussi de mélanger les solistes avec des musiciens d'orchestre, avec aussi des jeunes talents, on va dire, des musiciens émergents, des professeurs, des chambristes, aussi pour avoir un échange entre ces musiciens-là. Et puis aussi ces musiciens traditionnels qui nous viennent de Grèce, donc des artistes vénézuéliens qui habitent en Europe à l'heure actuelle, et des artistes slaves.
Oui, donc ça vient de tous les vraiment. Tous les il y a vraiment. Il y a vraiment un mélange des cultures en plus.
Oui, ce qui est très riche aussi pour les échanges. C'est vrai que bien évidemment on parle français, mais du coup on parle aussi anglais. On va essayer de parler italien parfois. Il y a
un peu corse aussi.
Non, c'est riche, ça permet d'aussi d'ouvrir la musique, qui est quand même un langage, on dit universel, mais c'est vrai.
Alors, c'est la 5e édition, hein, il y a plusieurs thèmes, je crois, sur cette... plusieurs thématiques.
Oui, oui, pour nous, c'est important d'amener des thématiques, c'est-à-dire des points de réflexion, mm-hmm. de quels construisent les programmes des concerts autour de ces points de réflexion. Donc, cette année, il y a plusieurs thématiques. On va commencer le premier week-end avec un peu un sujet autour de la musique baroque, avec notamment Salomé Gasselin, qui est une joueuse de viol de gamme, donc peut-être je vous en parlerai plus tard, qui est une très grande musicienne spécialiste de la musique du fin 15e et 16e siècle européen, que ce soit sacré ou profane. Et on aura aussi un concert de musique baroque, on l'appelait le concert de musique baroque des deux rives du monde, parce que la musique baroque européenne, donc que ce soit d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, de Venise, des grandes cours de baroque européenne, mais aussi, beaucoup moins connue, la musique baroque d'Amérique du Sud. Parce qu'il faut savoir que, voilà, au moment de la colonisation de l'Amérique du Sud, il y a énormément de communautés, notamment religieuses, notamment de jésuites, qui sont allées là-bas dans l'idée de tout simplement transmettre cette musique, mais qui ont aussi dû faire face à une langue locale, des coutumes locales, et adapter cette musique, et donc créer un langage baroque beaucoup moins connu, mais qui est très étonnant et très riche, et aussi très entraînant, qu'on va découvrir. Et ensuite, il y a d'autres thématiques. On a notamment choisi la thématique du Venezuela, dont je viens d'évoquer un peu maintenant avec l'Amérique du Sud, aussi parce qu'il y a des liens évidemment étroits entre le Cap Corse et le Venezuela historique. Et donc on a invité ces musiciens, Cristobal Soto, qui était venu il y a 13 ans jouer au musée de la Corse à Corte, invité par le musée de la Corse. Et il revient en Corse avec des musiciens vraiment extraordinaires. Et l'idée, c'est qu'on crée une rencontre avec des musiciens corses, notamment le guitariste balanin Fanu Toracinta. Et ensuite, dans d'autres thématiques, on a la thématique de l'histoire du soldat, qui est une pièce de théâtre qui a été créée en 1918 par Igor Stravinsky, et qui est une pièce de théâtre foraine. Il avait créé cette pièce parce que il n'avait pas la possibilité, à la fin de la Première Guerre mondiale, de fonder un orchestre. Et donc, il a dit, moi, je vais écrire une pièce pour 7 musiciens récitants, comme ça, on peut vadrouiller les routes. Et on s'est dit que cette formation marcherait bien pour la Corse, donc on l'a mise au programme. Et ensuite, pour conclure, on aura notamment une dernière journée avec, à l'honneur, la musique grecque, avec un grand chanteur chypriote qui s'appelle Yanis Dionysiou. Et on découvrira ce répertoire, notamment le répertoire des Grecs d'Asie mineure, qui ont dû... après la grande catastrophe, émigré à Athènes, qui sera accompagné par les musiciens classiques de la Camerata Figari.
C'est l'occasion aussi de découvrir des instruments qu'on ne voit pas souvent. On parlait de la viole de gambe.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des instruments qui apparaissent fin septembre à la Camerata Figari, là qu'après on ne revoit plus trop. Donc la viole de gambe, c'est un instrument... vraiment magnifique. Il faut savoir que c'était l'instrument roi, en fait. Avant le violon, parfois, il était même en compétition avec la voix. Et c'était vraiment l'instrument du XVIe siècle dans toutes les grandes cours, mais pas uniquement. Et d'ailleurs, si on se balade dans les grandes églises. J'étais il n'y a pas longtemps à Sienne, au dôme de Sienne, on regarde les fresques et on tombe sur des viols de gambe un peu partout, joués par des anges, joués par des membres des assemblées. Voilà, donc c'est un instrument vraiment magnifique que nous vous invitons à découvrir le 7 septembre, mais il y aura d'autres instruments. Lorraine peut peut-être vous dire un mot sur la harpe lianaire qui sera jouée.
Parlez-nous de la harpe.
La harpe lianaire, c'est une harpe au Venezuela qui est très... qui vient de la plaine Llaneros. C'est des grandes plaines au sud du Venezuela. Et il se trouve que la musique qui a été créée là-bas a produit aussi cette harpe qui est arrivée par les jésuites aussi d'Europe. Donc on revient sur notre thématique baroque. Et cet instrument va être présent dans toute cette musique traditionnelle qui sera jouée du coup ce mercredi soir à Figuarella. Et ce jeudi à Cervion.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est tout public, parce qu'il y a même un concert pour les enfants avec cette adaptation de Pierre Leloup. Ça,
absolument.
C'est un moment fort.
Absolument. C'est tout public. On invite les familles à venir aussi au concert.
C'est gratuit.
C'est gratuit. Alors, c'est à entrée libre. C'est-à-dire, si les gens veulent laisser quelque chose à la fin, mais ça dépend de leur envie, de leurs moyens aussi, parce que c'est une vraie question sociale, l'accès au concert. Et aussi de la qualité de ce qu'on fait, hein, parce qu'après, si quelqu'un était stonade, vous n'êtes pas obligé de laisser quelque chose. Non, les concerts sont gratuits, c'est vraiment très important pour nous. Et comme on disait, il y a aussi des projets pédagogiques. Alors, il y a des projets pédagogiques un peu qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on fait des interventions dans les écoles, la semaine en amont. On va aussi aller à l'IME qui est dans le village de Figuarella. On fait tous ces projets avec le conservatoire qui sont spécifiques pour le conservatoire. Mais il y a aussi un moment, le moment un peu phare pédagogique de la semaine, qui est ce Pedruccio Lupo, qui est une adaptation en langue corse du fameux conte Pierre et le loup de Prokofiev. L'adaptation a été faite en langue corse par Janine Lebini, que je remercie ici au micro. Et il sera récité par Pierre-Laurent Santelli, que vous devez... souvent voir à Viestella dans les petits moments du soir. Et donc voilà, donc c'est une adaptation pour les enfants qui seront faites pour les écoles de Myome, mais aussi pour les écoles de Fouriane et l'école de Pietraner.
Alors, en parallèle aussi, il y a une tournée musicale qui se prépare.
Alors oui, la Camerata Figuarella, c'est une association qui a évidemment un festival, parce que c'est un moment, un peu le temps fort, c'est le moment que nous construisons pendant toute la saison, qui nous permet aussi de faire un incubateur de projets. Et depuis 2 ans, on avait commencé un projet, qui a commencé donc il y a 2 ans, autour du répertoire instrumental traditionnel corse, qu'on a développé avec des musiciens baroques, donc qui sont spécialistes de répertoires de danse d'autres régions, notamment italiennes, et des musiciens corses, notamment Dion Livio Gazalta et Cece Brunini, qui sont membres de Diana Dell'Alba, qui ont fait ce travail de recherche. Et donc, on a en projet, c'est dans les starting blocks, une tournée de ce répertoire-là en Italie, avec notamment un concert à la Chiesa di San Crisogono, qui est l'église, la basilique des Corses à Rome, donc qui sera un moment phare, et ensuite avec un concert au monastère de Subiaco, qui est un très très beau monastère qui est dans la province de Rome. Voilà.
Alors, on ne va pas détailler les 11 concerts, puisque ça serait trop long, mais vous les trouverez sur le site et puis également sur le lien qu'on va mettre sur votre site. Mais mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche, Lauriane, avec le premier concert qui sera à Saint-Martin, au Dilota.
Le premier concert donc, qui rassemble un trio qui s'appelle le trio Babaki, qui font des chants slaves d'Europe de l'Est. Et donc, c'est des chants de 3 femmes. C'est des chants qui parlent... de la vie de tous les jours, qui vont autant parler des échoppes qui s'ouvrent dans des nouveaux villages que, euh, que beaucoup de chants d'amour quand même. Puis aussi des peines et des mœurs quotidiennes, enfin des histoires quotidiennes et qui sont mis en écho ou en réponse avec des œuvres pour viol de gambe ou viol de gambe et clavecin. Et ces œuvres-là ont souvent des thèmes ou des titres comme La mariée ou La rêveuse. Et donc on a essayé de mettre en écho les chants et les œuvres baroques donc d'un autre siècle, mais toujours parlant d'histoire quotidienne. Et puis on a ce concert à Vandrial aussi ce premier week-end avec toujours Salomé Gasselin à la viol de gambe. Et ces histoires baroques d'Europe et d'Amérique du Sud.
Alors, on va rappeler quand même au moins les villages, puisque vous allez tourner dans tous les villages. Quels sont ces villages du Cap,
hein? Alors voilà, ça c'est important pour que tout le monde se sente concerné. Donc, comme je disais, on commence le premier week-end de 16 et 17 dans la Pieve de l'Hôte, donc avec un concert à Saint-Martin et un concert à Mandriale, donc au-dessus de Figarilla, pour ceux qui ne connaisseraient pas le village de Mandriale, très beau village d'ailleurs. ensuite, on continue lundi, nous sommes à Rugliano, à la magnifique église Sant'Agnello qui vient d'être restaurée, la façade, donc pareil, on invite les gens qui ne connaisseraient pas à aller voir. Mardi, nous serons à Lourdes, à la salle des fêtes. Mercredi, nous revenons chez nous à Figarilla pour un concert en extérieur sur la place du village. Et ensuite, jeudi c'est l'apothéose, on a deux concerts. On a un concert à l'Alboro, donc avec le spectacle de l'Histoire du Soldat.
À Bastia,
évidemment, pour ceux qui ne connaisseraient pas. Et en même temps, un peu plus loin, nous avons un concert à Chervione, de ces mêmes musiciens vénézuéliens, donc les habitants de la plaine ou les habitants de Chervione qui n'ont pas pu l'occasion de venir à Figarilla écouter ce concert, ont un concert de prévu chez eux dans la cour de la DSEC. Et ensuite, vendredi, donc vendredi 22, nous avons un concert à l'église de Castello, à Brando. Et samedi, nous avons pareil, un double événement qui laisse respirer un peu la région bastiaise et la région du Cap, parce que nous partons de l'autre côté. Nous partons, les musiciens classiques, du côté de Pigne, à l'auditorium de Pigne, avec lequel nous avons une collaboration depuis le début du festival, et les musiciens grecs que nous retrouverons en clôture du festival à Porreto Brande pour la grande fête finale du festival seront eux à Cargèse dans l'église grecque, donc ça fait sens pour un concert le samedi 23 septembre. Donc nous avons l'ensemble du Cap Corse, Bastia jusqu'à Cervione et dans la Piadia, et nous allons même jusqu'à Pigne et Cargèse pour le reste du programme.
Un beau programme. Lauriane Maudry, merci.
Merci beaucoup.
Ange Sierakowski, merci beaucoup d'être venu. Et on rappelle donc cette cinquième édition du festival Camerata Figarilla du samedi 16 au dimanche 24 septembre. Merci à Auguste qui était à la technique.
L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.